VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du mercredi 29 mars 2017. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
République démocratique du Congo, vote du Conseil de sécurité de l'ONU sur un renouvellement éventuel du mandat de la MONUSCO, sa mission de maintien de la paix.
Simone Gbagbo, l'ancienne première dame ivoirienne, a été acquittée hier dans son procès à Abidjan pour crime contre l'humanité.
Au Sénégal, 9 dissidents d'un parti de la majorité présidentielle ont été maintenus en détention hier après un recours du parquet contre leur remise en liberté provisoire.
Au Kenya, la Croix-Rouge porte maintenant à 3 millions le nombre de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump s'est attaqué au bilan de Barack Obama sur le climat en signant son décret sur l'indépendance énergétique.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer aujourd'hui sur l'éventuel renouvellement du mandat de la MONUSCO, la mission onusienne de maintien de la paix en République démocratique du Congo. En attendant, des violences particulièrement préoccupantes se poursuivent dans le centre du pays. Les corps de deux experts de l'ONU ont été retrouvés mardi, juste après l'annonce par le gouvernement du massacre de 39 policiers par des rebelles. Les deux experts, l'Américain Michael Sharp et la Suédoise Zaida Catalan, ont été enlevés le 12 mars. En même temps que leurs quatre accompagnateurs congolais dans la province du Kasaï central, secoués par la rébellion de Kamuina Nsapu. Nous reviendrons sur la situation en RDC en seconde partie de cette édition.
En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo a été acquittée hier dans son procès à Abidjan pour crime contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Pour faire le point, Eddie Sango a joint notre correspondante sur place, Narita Namasté.
La Cour a déclaré sur le coup de 19h, après plus de 8 heures de délibération, déclarant Simone et Yves Gbagbo non coupables de tous les faits qui lui sont reprochés. Simone et Yves Gbagbo ne doit pas s'attendre à sa sortie parce qu'en avril 2015, elle a été condamnée à 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Donc, ça fait maintenant 6 ans qu'elle puge cette peine. C'est seulement pour ce procès de crime contre l'humanité, crime de guerre, qu'elle a été acquittée. Non, elle continue de purger sa peine de 20 ans.
Mais qu'est-ce qui a finalement milité à ce qu'elle soit acquittée? Est-ce que c'est par insuffisance de preuves?
Effectivement, par insuffisance de preuves, ça, ses avocats l'avaient déjà indiqué. Mais la Cour n'a pas vraiment donné ses raisons parce que l'heure était déjà avancée. Ils ont simplement fait la lecture qu'elle est non coupable, dit les différents articles qui étaient reliés à ça, mais n'ont pas dit exactement qu'est-ce qui a milité à sa faveur.
Narita Namasté, nous la retrouverons en seconde partie.
L'Afrique a besoin d'être plus innovante, plus productive et plus compétitive pour réussir l'émergence de son économie, a affirmé mardi à Abidjan le président guinéen Alpha Condé à l'ouverture d'une conférence internationale. De son côté, le président ivoirien Alassane Ouattara a affirmé en présence également de ses homologues du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, et du Sénégalais Macky Sall, que cette rencontre devrait être une opportunité pour répertorier un certain nombre d'obstacles à lever afin d'accélérer la marche des pays africains vers l'émergence. La capitale économique ivoirienne abrite une conférence internationale sur l'émergence économique en Afrique, prévue pour durer 3 jours.
Au Sénégal, 9 dissidents d'un parti de la majorité présidentielle en prison depuis plus de 2 mois ont été maintenus en détention hier après un recours du parquet contre leur remise en liberté provisoire. Précision de John Linden.
Maître Bamba Cissé a affirmé que les 9 prévenus avaient été placés sous contrôle judiciaire à la suite de la décision de la Cour d'appel de Dakar hier matin, leur accordant une remise en liberté provisoire. Mais dans l'après-midi, le parquet s'est pourvu en cassation contre la libération de ces 9 membres du Parti socialiste qui par conséquent restent en détention jusqu'à ce que la Cour suprême statue. Les prévenus, dont un maire d'une commune de Dakar, arrêté le 9 janvier, sont réputés proches de Khalifa Sall, maire de la capitale, inculpé et écroué depuis le 8 mars pour détournement de fonds publics. Khalifa Sall est présenté comme un rival potentiel au président sénégalais pour les élections de 2019.
Au Burkina Faso, le procès pour complot militaire de 20 soldats qui avaient attaqué un dépôt d'armes en janvier 2016 s'est ouvert hier au tribunal militaire de Ouagadougou. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Ces militaires, dont une dizaine de membres du RSP, la garde rapprochée du président déchu Blaise Compaoré, sont poursuivis pour complot, détention illégale d'armes à feu, vol aggravé, violence et voie de fait. Arrêtés en mars 2016, ils sont accusés d'avoir attaqué le dépôt d'armes de Yimdi, des armes qui devaient servir, selon l'arrêt de renvoi, à la libération des généraux Gilbert Diendéré, l'ex-chef du RSP, et de Djibril Bassolé, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Suite à l'échec du coup d'État, ces militaires s'étaient enfuis en Côte d'Ivoire. Arrêtés à Abidjan et extradés à Ouagadougou, ils sont aussi poursuivis pour désertion. Maître Fako Bruno Ouattara, un des avocats commis d'office, a indiqué que beaucoup d'entre eux, dont le principal accusé, le sergent-chef Ali Sanou, risquent la perpétuité.
En Zambie, le gouvernement a lancé une grande consultation auprès de sa population pour décider de l'opportunité de quitter la CPI, la Cour pénale internationale, initiative dénoncée hier par les adversaires du président Edgar Lungu. Le point avec Jacques Aristide.
La consultation publique faite par le truchement de réunions publiques a démarré lundi dernier et doit se poursuivre jusqu'au 31 mai. D'après le ministre de la Justice, Given Lubinda, ce n'est qu'après cette étape que la Zambie rendra publique sa décision de quitter ou non la CPI lors du sommet de l'Union africaine en juin ou juillet prochain. En réaction, l'opposant Nelson Masoni du mouvement pour une démocratie multipartite a accusé le président Lungu de vouloir quitter le tribunal international pour échapper à d'éventuels procès. Mais pour cet opposant, le président peut toujours y être déféré. L'opposition accuse M. Lungu de fraude et de violence lors de sa réélection en 2016, mais la justice zambienne a validé depuis les résultats. La CPI, dont le siège est à La Haye, est menacée depuis des mois d'une vague de retrait de la part de plusieurs pays africains qui l'accusent de parti pris au motif que la plupart de ses enquêtes ont visé des dirigeants du continent.
Selon la Croix-Rouge, le nombre de Kenyans ayant besoin d'une aide alimentaire d'urgence a doublé en 3 mois et s'élève à présent à 3 millions. Anastasie Tudiech.
Abbas Goulet, secrétaire général de la Croix-Rouge kényane, explique que les taux de malnutrition infantile sont en progression exponentielle. Il ajoute que le bétail, principale richesse de nombreuses communautés, a été décimé et l'accès à l'eau devenu rare et très difficile. La sécheresse a également exacerbé les tensions entre communautés d'éleveurs qui ont fait au moins 30 morts depuis décembre. Selon la Croix-Rouge, le nombre de Kenyans souffrant de la faim pourrait atteindre les 4 millions dans les semaines à venir et plus de 340 000 enfants de moins de 5 ans sont en état de malnutrition sévère. Nafou Traoré, directrice Afrique de la Fédération internationale de la Croix-Rouge, tire la sonnette d'alarme sur le besoin énorme de ressources pour faire face à la situation. Selon elle, des milliers de personnes pourraient mourir et des enfants subiront des séquelles pour le reste de leur vie. Et elle ajoute que personne ne pourra dire « nous ne savions pas ».
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, confusion au sein de la commission du renseignement de la Chambre des représentants dans l'enquête précédemment bipartisane sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016 suscite maintenant des doutes. Son président républicain, David Nunes, a refusé de se récuser et a suspendu le travail de la commission pour le restant de la semaine, ce qui n'a fait qu'exacerber les frustrations des collègues démocrates de M. Nunes. Ils l'ont accusé de compromettre la crédibilité de l'enquête ainsi que sa propre indépendance après que ce dernier eut rencontré, sans les informer, une source à la Maison-Blanche pour aller ensuite dire directement au président Donald Trump ce qu'il avait découvert à cette occasion.
Le président Trump s'est attaqué au bilan de Barack Obama sur le climat dans un discours hier en signant le décret sur l'indépendance énergétique. Ce décret ordonne un réexamen de la mesure phare de son prédécesseur démocrate, le Clean Power Plan, qui impose aux centrales thermiques des réductions de leurs émissions de CO2. Monsieur Trump a promis un renouveau de l'industrie du charbon, mais n'a pas mentionné l'accord de Paris sur le changement climatique signé fin 2015 par plus de 190 pays.
Le commandant des forces américaines en Irak, le général Stephen Townsend, a déclaré que la coalition avait vraisemblablement joué un rôle dans le raid aérien qui a tué une centaine de civils le 17 mars à Mossoul. Selon le général Townsend, les leaders militaires irakiens croient fermement que des civils ont été rassemblés par le groupe État islamique avant le raid, soit pour attirer la coalition dans un piège qui coûterait la vie à des civils, soit probablement pour en faire des boucliers humains. Un général a été nommé pour enquêter si des innocents ont été tués. Il s'agit d'un accident de guerre involontaire, a-t-il dit.
Les dirigeants de la Ligue arabe se retrouvent aujourd'hui en Jordanie pour leur sommet annuel sur fond d'impasse face aux multiples conflits et guerres dans leur région, principalement en Syrie. À l'ordre du jour donc les conflits en Syrie, au Yémen et en Libye, la lutte contre les groupes djihadistes Al-Qaïda et État islamique qui sévissent notamment en Syrie et en Irak, ainsi que l'insoluble conflit israélo-palestinien. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guiriec.
La Côte d'Ivoire va demander une rallonge au FMI en mission dans le pays jusqu'au 5 avril. Le gouvernement espère ainsi faire face à la chute des prix du cacao qui enregistre une baisse de plus de 30% depuis le mois d'octobre. Conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique à Abidjan, le président Macky Sall plaide pour un développement du chemin de fer en Afrique de l'Ouest, estimant que la route a une portée limitée. À noter que les infrastructures sont un pilier du plan sénégalais initié en 2014. Et puis, la semaine du développement de l'Afrique s'est ouverte à Dakar avec un appel pour des politiques axées sur les jeunes. Il est impératif que les gouvernements africains adoptent des stratégies cohérentes et des plans de développement nationaux qui répondent aux défis de la croissance, des inégalités et du chômage du continent, a déclaré la Commission économique pour l'Afrique.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Maroc en piste pour la Coupe du Monde 2026.
Candidat malheureux à l'organisation de la Coupe du Monde à 4 reprises, le Maroc est prêt à postuler de nouveau, selon le président de la CAF. En visite au Maroc, Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football, s'est dit convaincu hier que le Maroc pourrait organiser la Coupe du Monde en 2026. On se souvient que le royaume chérifien avait déjà postulé en 1994, en 1998, en 2006 et en 2010, mais sans succès. L'hypothèse d'une candidature commune avec le Portugal et l'Espagne, évoquée par la presse ces dernières semaines, pourrait faire pencher la balance.
Éliminatoire pour le Mondial 2018, l'Iran y est presque.
La victoire 1-0 face aux Chinois à Téhéran, la Corée du Sud qui domine la Syrie 1-0, le Japon qui bat la Thaïlande 4-0, la Tanzanie a battu le Burundi 2-1 en amical. Et puis toujours en amical, match nul 0-0 entre l'Afrique du Sud et l'Angola et le Cameroun qui s'est incliné 2-1 hier soir face à la Guinée. C'était à Bruxelles en match amical. Autre match amical, le Cap-Vert qui s'impose 2-0 face au Luxembourg. Un but contre son camp de Younes a permis au Maroc de dominer la Tunisie hier en amical 1-0. Et puis en Europe, dominatrice, l'Espagne s'est imposée logiquement contre la France. L'assistance vidéo à l'arbitrage a provoqué l'annulation d'un but d'Antoine Griezmann et la validation d'un but espagnol. Et puis 3 jours après le limogeage de son sélectionneur, Danny Blind, les Oranges des Pays-Bas se sont inclinés face à l'Italie 2-1, malgré une prestation encourageante et le match spectaculaire de la soirée, match nul 3-3 entre la Russie et la Belgique.
La Fédération argentine de football fait appel de la suspension pour 4 matchs de son capitaine Lionel Messi.
Oui, l'incident remonte à la semaine dernière quand l'Argentine a battu le Chili 1-0 grâce à un pénalty de Lionel Messi. Sur le moment, l'arbitre brésilien n'a pas compris les propos en espagnol de Messi, énervé après une décision de l'arbitre qui a signalé une faute de l'attaquant le long de la touche. Sans Lionel Messi, l'Argentine s'est inclinée hier soir en Bolivie 2-0 et s'est donc clairement compliqué la tâche dans sa course à la qualification à la Coupe du Monde 2018. Allez Idrissa, avec vous, quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain la nuit dernière.
Milwaukee et Charlotte 118-108, Minnesota et Indiana 115-114, Philadelphia et Brooklyn Nets 106-101, Phoenix et Atlanta 91-95, Miami et Detroit 97-96, Golden State Warriors et Houston 113-106, Denver et Portland 113-122.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idriss Assédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Retour sur le verdict au procès de Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire. La cour d'assises d'Abidjan a acquitté hier l'ex-première dame. Elle était jugée depuis près de 10 mois pour crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale 2010-2011. Le jury a prononcé son acquittement et ordonné qu'elle soit remise immédiatement en liberté si elle n'est pas retenue pour d'autres causes. De nouveau, notre correspondante Narita Namasté.
Simone Yves Gbagbo n'est pas coupable des chefs d'accusation qui lui étaient reprochés. Telle est la décision des 3 juges et des 6 jurés qui ont mené pendant près de 10 mois ce procès dont l'issue était très attendue. Aliyou, procureur général du parquet qui avait requis la prison à vie contre l'ex-première dame, sort de ce procès affaibli et justifie la décision du jury.
Le jury a estimé qu'elle ne devait pas être retenue coupable pour les faits de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Peut-être ont-ils voulu aussi donner un signal fort aux politiques pour la réconciliation. En tout cas, le procès s'est tenu, mais ce qu'il faut retenir, c'est l'émotion qui a parlé.
Les victimes et leurs ayants droit sont les gros perdants de ce procès. Maître Kalo Koulibaly, avocat de la partie civile, accepte malgré lui le verdict de ce procès et s'interroge sur les questions que pourront se poser ses clients. Mais pour lui, tout n'est pas encore terminé.
Ce que nous regrettons dans cette affaire, c'est le sort des victimes. Qu'est-ce que ces victimes vont dire suite à l'acquittement de Mme Simone Gbagbo? Ça, c'est une question. Nous, en tant que professionnels du droit, nous pensons s'il n'y a pas d'autres instructions de la part de notre mandant, nous pensons nous pourvoir en cassation pour que la haute juridiction puisse statuer sur les faits à nouveau.
Ici Akar Diaby, président des associations des victimes de la crise post-électorale de 2011, qui a suivi de bout en bout ce procès, se dit déçu de la justice ivoirienne qu'il qualifie d'être à la sorte des politiques et demande l'actualisation du mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Simone Gbagbo.
C'est la tristesse et la désolation pour les victimes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient de démontrer qu'elle n'a ni la capacité ni la volonté de rétablir les victimes dans leur dignité. Nous appelons à l'exécution immédiate du mandat d'arrêt à l'encontre de Simone Gbagbo.
Simone Gbagbo a quitté 7, mais pas pour autant libre, parce qu'elle a été condamnée déjà à 20 ans d'emprisonnement en avril 2015 pour atteinte à la sûreté de l'État. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
Comme également annoncé en première partie, le Conseil de sécurité de l'ONU vote aujourd'hui une résolution sur l'éventuel renouvellement du mandat de la MONUSCO, la mission de maintien de la paix des Nations Unies en République démocratique du Congo. Entre-temps, la FIDH et ses 3 organisations membres en RDC ont publié un communiqué dénonçant l'intensification des violences et de la répression. Nathalie Barge a joint Paul Sapou, président de la Ligue des électeurs et secrétaire général adjoint de la FIDH.
Une chose est de renforcer ce mandat de la MONUSCO et de sa brigade, s'assurer qu'ils aient les capacités d'assurer la protection des populations civiles de manière rapide et ponctuelle lorsque les foyers de tension se développent, y compris aussi bien au centre du pays, à l'ouest et à l'est, bien sûr. Alors nous avons voulu apporter notre soutien, nos analyses, nos propositions pour que les conseils de sécurité des Nations Unies prennent vraiment des actions rapidement pour renouveler ce mandat et le renforcer, puisque la situation s'est détériorée. Nous avons également demandé qu'on puisse renforcer les effectifs de la police au sein de la MONUSCO et maintenir les capacités du Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme, ce bureau qui documente les violations des droits de l'homme.
Vous avez par ailleurs justement demandé des sanctions contre les personnes qui ralentiraient le calendrier électoral et les personnes personnes qui ont violé les droits humains ?
Tout à fait. Nous constatons que le délégué du président Kabila au niveau de la majorité présidentielle bloque intentionnellement la mise en application de cet accord en utilisant plusieurs subterfuges pour refuser l'application de cet accord. Ce sont des gens de responsables politiques qui constituent l'obstacle majeur à la paix et à la sécurité. Évidemment, par rapport aux violations graves des droits humains qui sont commises, nous demandons, surtout dans les Kasaï et ailleurs aussi, nous demandons que des sanctions ciblées soient prises. La situation de la RDC relève vraiment d'un cas de paix, de sécurité, non pas seulement pour la RDC, mais pour l'ensemble des régions du continent africain. Et partant, cette situation relève du Conseil de sécurité. Il y a par exemple ces autorités militaires et même civiles qui sont concernées par la question de sécurité au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau des services de sécurité.
Paul Ntsapou, le président de la Ligue des électeurs et secrétaire général adjoint de la FIDH. Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba a lancé hier un dialogue national boycotté par le camp de son rival, Jean Ping. Il a exhorté ses compatriotes à régler ce qu'il a appelé la querelle de famille. Quelques 50 partis politiques et 1200 organisations de la société civile étaient présents. Idriss Fall a joint à Libreville Nikèze Moulumbi, président de l'ONG Croissance Saine et Développement, qui ne participe pas à cette rencontre.
Je ne suis pas partant pour ce dialogue politique. Si des personnes ont décidé d'aller dans un défoulement, ce n'est pas le cas pour Croissance Saine Environnement. Vous parlez bien de 1200 participants pour le compte de la société civile. Je ne sais pas combien de minutes chaque participant à ce dialogue aura en termes de parole. La seule originalité, des titres comme « Homme politique non partant ». Alors 1200, le fichier gabonais ne présente même pas plus de 500 associations ou ONG. Ceux qui ont décidé d'y aller savent à quel résultat peuvent-ils s'attendre. C'est une grande messe pour rien.
Pourtant, le gouvernement estime prendre langue avec tous les Gabonais.
La seule satisfaction que j'ai de ce dialogue, c'est que je n'ai pas été au dialogue du président Jean Ping. Je ne suis pas allé au dialogue du gouvernement, parce que c'est le Premier ministre qui est coprésident. Je ne suis pas à ce dialogue. C'est la preuve qu'il y a bien au Gabon une société civile qui accompagne le développement. Seule originalité, c'est que la société civile au Gabon, elle est maintenant réduite à l'église catholique, aux musulmans, à l'église protestantes, les seuls acteurs qui ont été retenus comme étant des facilitateurs.
Mais depuis la validation de la victoire d'Ali Bongo, on a l'impression comme d'un pays divisé.
Un pays est divisé, oui. Il faut un jour s'asseoir et prendre langue. Mais comment voulez-vous aller à un dialogue où une bonne frange des acteurs de la société sont exclus, notamment les syndicats. Une bonne frange des ONG ne se sentent pas concernées. Et pourquoi aller à un dialogue avec un gouvernement qui décide de renouveler un contrat à fort impact social, tel que l'eau et l'électricité, phagocyté par le groupe français Veolia? Vous pensez que c'est au dialogue qu'on va aller trouver la solution? Et il n'y a même pas de discussion au Parlement parce que le Parlement est monocolore.
Les enseignants sont en grève depuis plusieurs mois et même les activités de 7 syndicats ont été interdites.
Les activités ont été interdites, nous le regrettons, tout en condamnant le cumul successif de grèves qui met en mal les études de nos enfants. C'est pas à un dialogue avec plus de 1500 personnes ou 2000 personnes que nous trouverons. C'était peut-être une très bonne idée pour le chef de l'État, mais les personnes à qui il a désigné d'organiser ce dialogue ont décidé de tuer la poule dans l'œuf. Le quotidien du Gabonais va-t-il changer au lendemain de ce dialogue? Cherté de la vie, cherté d'eau et d'électricité, cherté des matières premières, cherté du transport. Est-ce que cela va changer? Est-ce qu'au lendemain du dialogue, les grèves vont s'arrêter définitivement dans le secteur de l'enseignement? Le Gabon a trop fait de la politique. Qu'on pense un peu à cette jeunesse qui devient un danger potentiel pour tout le monde. La jeunesse devient un danger pour la cité.
Nikèze Moulumbi, président de l'ONG Croissance Saine et Développement. Au Burkina Faso, les organes de la presse écrite privée traversent une mauvaise passe. Face à des dettes impayées, les patrons de la presse privée haussent le ton et font pression sur le gouvernement au moment où certains ont déjà mis la clé sous la porte de Ouagadougou, notre correspondant Issa Napon.
De 1 à 2 ans, c'est le temps d'accumulation de factures impayées en fonction des organes de presse écrite et imputées à l'État. Après les journaux Le Soir, l'hebdomadaire Gigi, journal du jeudi, la dernière victime en date de cette crispation économique, le quotidien Notre Temps, qui a cessé de paraître. Bourema Diallo en est le directeur de publication.
Certaines choses n'ont pas été bien analysées avant d'enclencher ce journal-là. Nous sommes à l'apprentissage. Mais les difficultés externes, c'est un peu les impayés. On pouvait estimer ça autour de 8 mois de fonctionnement. Nous avons des associations, des ONG qui nous doivent aussi autant d'argent.
La presse écrite privée se retrouve ainsi dans un engrenage qui englobe différents clients qui dépendent aussi des paiements de l'État. Inquiets, les membres de la CEP, la Société des éditeurs de la presse privée, s'en sont ouverts au ministre en charge de la communication, explique le directeur du journal Le Quotidien, Souleymane Traoré.
L'État, depuis 2014, après l'insurrection, ne paye plus correctement les factures. Vraiment, actuellement, tous les organes de presse sont malades. Et on a rencontré le ministre de la Communication qui a promis de faire passer le dossier au prochain conseil des ministres.
Pour le rédacteur en chef du journal L'Économiste du Faso, certains de leurs choix économiques sont souvent à reconsidérer. Abdoulaye Tao.
Si vous regardez au Burkina, la plupart des organes sont plus dans la vente à la clé. Et la vente à la clé a des problèmes aujourd'hui parce que le réseau de distribution est en panne. Aujourd'hui, si vous faites financer par la pub, il faut que votre support soit attractif. Ceux qui seront les plus attractifs qui vont peut-être survivre.
La dette de la presse écrite privée était estimée par la CEP à environ 350 millions de francs CFA en 2016, selon Souleymane Traoré. Et nous sommes jugés dérisoires, mais qui place la vie de la plupart de ces médias privés à risque, d'où la nécessité de mener une réflexion profonde afin de résoudre cette quasi-indépendance à l'État. Jean-Paul Somda est spécialiste en économie des médias.
Dans la publication d'un journal, il y a la préparation avant la publication et il y a aussi la mobilisation du lectorat des annonceurs publicitaires. Une entreprise de presse qui n'a pas suffisamment de lecteurs, ça veut dire que le journal n'a pas beaucoup de tirages. La probabilité d'avoir beaucoup de recettes publicitaires est faible. Dans le cas des journaux qui ferment aujourd'hui, c'est des journaux qui n'ont pas bien préparé la première phase de survie sur un marché qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, on dit que l'État doit, ce qui fait que certains ont des tensions de trésorerie. Mais s'il se trouvait qu'ils avaient eu l'occasion de bien se préparer, ils auraient surmonté la difficulté de trésorerie jusqu'à ce que effectivement l'État puisse éponger sa dette.
La CEP restera particulièrement suspendue aux décisions du prochain Conseil des ministres ce mercredi. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
La grave sécheresse dans la Corne de l'Afrique n'épargne pas non plus le Somaliland. Reportage sur place de notre collègue Abdelaziz Ousmane du service Somali présenté par Lionel Gaïma.
Le vieil hôpital des Rivago, le seul de la région de Sanaag, dans le Somaliland, est débordé par l'afflux de nombreuses victimes de la sécheresse. Des enfants affectés par la malnutrition sont accueillis dans le centre de stabilisation. Ismaël Saleban Bokwa en est le directeur. La sécheresse a contraint de nombreux éleveurs à se déplacer. Certains sont allés dans les villes, mais la plupart des enfants mal nourris admis ici sont originaires des zones rurales. Avdaru Salas, petit garçon de 14 mois, pesait environ 6 kilos lorsqu'il est arrivé du camp des déplacés de Darar. Il souffre de diarrhée et de malnutrition, explique sa mère, dont la détresse est visible. La condition de Salah s'améliore et il pèse maintenant 7,2 kg, assure le docteur Abdishakour Saleban Warsam, un des médecins. Il était très faible à son arrivée ici, avec un poids et une taille en dessous de la normale. Sévèrement malnourri, il a été placé dans le centre de stabilisation. Il ne pouvait pas manger, alors on a commencé à l'alimenter à l'aide d'une sonde, qui est toujours en place. Certaines familles dans les zones affectées par la sécheresse rencontrent des difficultés à amener leurs enfants au centre de santé. Le docteur Ismaël Saleban Bokwa, directeur de l'hôpital Derivago. Dans les zones rurales, les familles ayant des enfants mal nourris ne sont pas en mesure de les amener à l'hôpital. Par exemple, si une mère de 10 enfants en a 5 souffrant de malnutrition, nous la prions d'amener ses enfants malades à l'hôpital. Selon les Nations Unies, plus de 6 millions de personnes à travers la Somalie et le Somaliland ont besoin d'une aide d'urgence à cause d'une longue sécheresse qui ne donne aucun signe de s'atténuer.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.